Morning Edition from NPR News.
Merci, Tim. Sandy, Berhausen. Hallo, Radio Rosa, Paris.
Vamos a quedar en la radio.
France Inter. Le 18.
L'ère post-Merkel est donc officiellement ouverte. La coalition gauche-vert-libéraux a présenté son projet de gouvernement, donné quelques noms de ministres. L'accord de coalition est bouclé, il est très vert, avec un œil sur les finances. Aussi, on rentre dans le détail dans une minute. Le bruit du monde est à Cuba ce soir, qui célèbre les 5 ans de la mort de Castro, entre nostalgie et envie de changement aussi dans un pays miné par une crise économique épuisante. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legeny a trouvé l'affaire Miss Sénégal qui soulève une énorme polémique sur l'apologie du viol, le grand aéroport des Pays-Bas qui met des cochons sur ses pistes et Dior qui choque la Chine. 18h50, le cinéma en VO de Corinne Pellissier et Soul Kids. C'est un documentaire sur une école de musique incroyable à Memphis, Tennessee. 18h50, le monde d'après de Jean-Marc Four et ce traité franco-italien tout juste signé. Est-il en train de sceller un nouveau couple plus fort que le couple franco-allemand? Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Hélène Millard de la Croix.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne Université. Donc je le disais, ça y est, c'est bouclé en quelque sorte et j'ai envie de dire, ça a été sacrément rapide, en tout cas par rapport à la dernière fois.
Ah, il a fallu 2 mois, voilà. 2 mois quand même.
C'est pas tant que ça.
C'est pas tant que ça, on avait prévenu lorsqu'il y a eu le résultat des élections le 26 septembre et que tout le monde disait, ça y est, Madame Merkel n'est plus chancelière. Nous avons tous dit, ça va prendre du temps.
On avait même imaginé qu'elle passerait Noël à la chancellerie.
Voilà, alors ce ne sera pas le cas. Il est prévu que pour la Saint-Nicolas, qu'on aime beaucoup en Allemagne, le nouveau gouvernement, enfin le chancelier, doit être élu par le Parlement et le même jour, le président fédéral doit nommer les ministres. Mais il y a une étape entre maintenant, où nous avons donc pris connaissance de cet accord, compromis, très large compromis, difficile entre droit, formation politique et l'élection du chancelier. Il faut d'abord retourner à la base et donc pour les libéraux et les sociodémocrates, il va y avoir un congrès pour entériner cet accord et du côté des Verts, il va y avoir une consultation de la base, 125 000 membres qui vont s'exprimer. Ils ont 10 jours pour le faire, soit par internet, soit par courrier.
Ça va montrer jusqu'à quel point c'est une coalition difficile. J'imagine qu'on entendra monter un certain nombre de voix parce qu'on verra la liste des ministres tout à l'heure et ce qui peut coincer. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que la méthode a été différente. C'est peut-être pour ça que ça a été rapide. Il y a eu d'abord un contrat de coalition. Ils sont venus en quelque sorte avec le package alors que les négociations d'habitude se font plutôt d'homme à homme ou de homme à femme et de gré à gré comme ça.
Alors là, la procédure qui a été choisie était d'abord de faire ce qu'on appelle des sondages en Allemagne, mais pas des sondages à la population, mais de sonder avec les différentes formations politiques, avec qui on pourrait fonctionner, et puis a été, donc depuis le 21 octobre, mise en place une espèce de groupe principal avec les 6 responsables, et 22 groupes de travail, pour rassemblant à chaque fois les 3 des représentants spécialistes de ces 3 formations politiques pour essayer sur chacun des sujets de se mettre d'accord. Et donc il faut vraiment voir ça. Moi je trouve que c'est vraiment l'illustration de ce qu'est le compromis à l'allemande, c'est-à-dire la négociation très très longue qui peut être extrêmement dure. On a su assez peu de choses sur les détails, mais beaucoup de voix sont élevées quand même sortant en disant que des portes avaient claqué. Mais à la fin, il faut que chacune des 3 formations soit représentée proportionnellement à sa force au Bundestag et que chacun ait l'impression puisse dire à sa base qu'il a gagné, au moins sur l'essentiel, tout en ayant accepté des compromis et donc de faire des concessions.
Alors, avant de rentrer dans le dur, justement, dans les compromis, les concessions et surtout les têtes d'affiche qu'on verra et qui vont devoir compter les uns avec les autres, est-ce que ce que vous nous expliquez là, et cette longueur de négociation, mais à l'intérieur de ces 3 groupes, n'a pas été aussi plus facile et plus rapide parce que la CDU de fait avait jeté l'éponge assez vite. Est-ce qu'on peut dire comme ça que on n'a pas imaginé longtemps que l'issue pouvait être différente?
Oui, c'est vrai que la façon relativement catastrophique dont se sont passées les élections pour la CDU, même s'il y a eu quelques conversations pour voir si on pouvait quand même essayer de faire une combinaison avec les Verts et les libéraux, très vite on est allé vers cette constellation à 3, hein, donc ce feu tricolore. Donc ça a été rapide, mais on savait d'avance que ce serait compliqué et qu'il faudrait vraiment négocier pied à pied, en particulier, j'allais dire, à cause des positions sur certains sujets compatibles, mais sur d'autres diamétralement opposés, des libéraux d'un côté et des verts de l'autre, et puis un peu aussi des sociodémocrates qui avaient plutôt un projet de dépenses publiques exactement à l'inverse de ce que les libéraux voulaient, qui voulaient resserrer les cordons de la bourse.
Alors, qui ont quand même les cordons de la bourse, on va y aller. est-ce qu'on dit quand même que cette coalition tricolore, comme vous dites, n'est pas tellement rouge-vert-jaune, mais plutôt vert-rouge-jaune? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? On a une sortie du charbon anticipée pour 2030 au lieu de 2038. On a 15 millions de voitures électriques qui sont censées sortir dès 2038. On a surtout deux ministres et deux sacrés ministères. Le ministre des Affaires étrangères et puis un autre, on s'y arrêtera plus longuement, qui dit climat et économie. Donc, est-ce qu'on dit coalition vert-rouge-jaune plutôt que rouge-jaune-vert?
Alors, c'est vrai que a été accepté et dit très fortement par les trois partis qui ont présenté le programme de leur travail en commun en milieu d'après-midi, que la question du climat était une question transversale qui allait se retrouver dans chacun des ministères. Donc de ce point de vue, on peut dire qu'en effet c'est la dimension verte qui est la couleur dominante. Alors après, c'est une question de la façon dont on tourne la chose. Qui a les grands ministères, on a essayé de répartir les choses correctement, mais vous savez que en gros, il y a toujours trois familles de ministères. Il y a ceux qui ont du pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir dans tous les pays, c'est les finances et c'est l'intérieur, d'une certaine façon. Bon, et puis la chancellerie, bien évidemment. Il y a ceux qui sont visibles. Et les affaires étrangères, c'est visible, mais c'est pas tellement un ministère qui a du pouvoir.
Alors, les affaires étrangères, c'est pour Annalena Baerbock.
A priori, ce serait pour Annalena Baerbock, qui est donc une verte, enfin une écologiste. Je me demande ce que ça va donner. Ça va être intéressant d'un point de vue culturel. Alors, c'est pas la première fois que les écologistes ont les affaires étrangères.
Oscar
puisque
Fischer.
Jens Fischer avait, dans la première coalition rouge-verte au niveau fédéral, et très bien occupé ce ministère, mais Annalena Baerbock a un ton un peu rude et on va dire qu'a priori elle ne passe pas pour très diplomate. Donc elle a dit, et c'est ça qui est intéressant, dans la façon dont elle a présenté chacun a dit ce qu'il avait à dire, qu'on allait revenir, et j'ai aimé ce mot revenir parce que ça voulait dire qu'on reconnaissait qu'on s'en était éloigné, qu'on allait revenir à une diplomatie européenne commune. Et quand on voit un certain nombre d'accents qui sont et dans le texte et dans ce qui a été dit, je trouve que c'est assez bon signe ça peut, effacer les craintes que l'on pourrait avoir sur une Allemagne qui ferait encore cavalier seul. Moi, j'ai été frappée surtout par les mots de Scholz, donc Olaf Scholz, qui donc va être le chancelier, lorsqu'il a parlé de l'Europe, il a dit nous voulons une Europe souveraine. Alors après, on peut discuter sur le mot souverain. Être souverain en allemand, ça veut dire avoir sa souveraineté, mais être aussi calme et posé et tranquille. Il a dit d'abord l'amitié avec la France et le partenariat avec les USA. Alors là, c'est un ordre, une hiérarchie très très clairement européenne.
Et j'allais le dire, il y a sur ce sujet-là, puisque vous y êtes, des accointances, on va dire, entre notamment sur l'Europe de la défense, par exemple, des choses comme ça qui vont être plus faciles, peut-être, que ça l'aurait été, que ça l'a été jusque-là, de toute façon, avec Angela Merkel.
Très certainement. Et si vous prenez donc cet accord de coalition, qui fait 175 pages à peu près, et que vous cherchez le mot France, en cherchant, eh bien, vous trouvez le mot France lorsqu'on parle de défense européenne et la France est évoquée donc pour une coopération européenne accrue en termes de formation d'armement, comme nous le faisons déjà en partenariat avec la France. C'est-à-dire qu'on voit là vraiment le sujet où on a envie d'avancer et où cette idée de modèle franco-allemand, on fait déjà à deux et puis ça peut donner des idées en plus grand à plusieurs.
Vous croyez que ça en appelle du pied? Parce que, voyez, aujourd'hui, Jean-Marc Four, tout à l'heure, va nous parler de cet accord entre la France et l'Italie, dont on a dit à un moment qu'elle pouvait former un autre couple. Est-ce que c'est un appel du pied qui dit quelque chose du genre « le couple, c'est nous le premier couple » Vous croyez que ça dit ça?
Alors, je crois que on est au-delà de ça. Il n'y a pas de concurrence entre les couples. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer à Berlin que d'un seul coup il y a un axe de Paris-Rome qui remplace. Non, on pense beaucoup plus.
On n'est pas si fluide.
C'est plus fluide et puis surtout c'est l'idée d'une triangulation. Je crois que c'est tout à fait clair. Vous savez, il y a le fameux triangle de Weimar avec l'Allemagne, la France et la Pologne. La Pologne est actuellement dans des positions et des postures difficiles. Or je ne vois pas du tout de concurrence entre ces deux couples.
Alors Hélène Mière de la Croix, je découvre un tout petit instant quand même à quelques noms, celui de Robert Habeck notamment, qui est toujours le numéro 2 des Verts. Climat et économie, d'abord, est-ce que c'est un ministère inédit, ça, climat et économie?
Sous cette formulation-là, oui, d'autant plus qu'il y a aussi un ministère de l'environnement. Vous voyez, et qui est aussi prévu pour les Verts, les écologistes. Donc climat et économie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée que et l'économie et les transports j'irais même la défense, les affaires étrangères a-t-elle dit, doivent être soumises, ces différents ministères doivent avoir comme ligne qui les traverse l'idée de respecter l'accord de Paris et où l'Allemagne doit être de nouveau, ça a été beaucoup mis en avant. Finalement, c'est le plus grand pays en Europe. Nous ne pouvons pas être à la traîne. Et là, c'est, je trouve, quelque chose qui m'a frappé dans la dimension critique un peu par rapport au gouvernement sortant et donc à l'ère Merkel. C'est que même s'il y a des continuités incontestables, ce programme a été présenté sous le mot « oser plus de progrès ». Mmh. Alors, c'est d'abord un clin d'œil à la rupture de 1969 où Willy Brandt a dit « oser plus de démocratie ». Là, oser plus de progrès, ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment été une force de progrès, et l'intégralité du programme, outre donc l'idée de moderniser l'énergie et d'éliminer toutes les mauvais aspects de ce dossier, c'est de progresser dans ce qu'on appelle la digitalisation en allemand, c'est-à-dire le haut débit, la santé, la mobilité, l'habitat. Et donc là, il y a quand même un message qui est envoyé, nous avons un peu dormi, nous pensons un des pays industriellement les plus en pointe, finalement nous pouvons mieux faire.
Et c'est peut-être pour là que vient le terrain d'entente au fond avec les libéraux, avec Christian Lindner qui lui a les cordons de la bourse, il est ministre des Finances. Ce qu'on sent vraiment, parce qu'il y a des, quand on regarde les programmes au moment de l'élection, on a l'impression que c'est vraiment le jour et la nuit, mais on sent bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'attacher. C'est là-dessus qu'ils ont dû travailler, vous en avez cité certains, et puis les infrastructures, etc. Est-ce que ça suffit pour attacher ensemble des Verts qui allaient même jusqu'à un impôt sur la fortune avec des libéraux qui, au contraire, sont, pardon de le dire comme ça, très près de leur sou?
Ben, on va voir après dans le détail. Là, ce qui nous est proposé, c'est un compromis. Alors, qui est contraignant, c'est-à-dire qu'on doit s'y tenir, mais il n'est pas très très précis. Mmh. Il y a des grandes orientations, mais après, ce sont les députés qui vont décider, et il va y avoir bien évidemment des discussions, et ça va grincer un certain nombre de fois. Un des problèmes, surtout, et je crois que là, les économistes sont les mieux à même de l'expliquer, c'est comment on peut relancer l'économie et permettre de faire entrer des impôts alors qu'on dépense de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que les dépenses dans les infrastructures ou la hausse du salaire minimum, parce que ça va quand même, comme Scholz l'a dit, profiter à 10 millions de personnes qui vont. 12 euros, oui, 12 euros. Et donc ça devrait profiter à, il a dit, une dizaine de millions de personnes. C'est une augmentation de pouvoir d'achat. Dans quelle mesure l'augmentation de pouvoir d'achat, la possibilité donc de dépenser peut revenir aux entreprises et donc améliorer la façon d'abonder au budget de l'État. Donc tout ça sont des équilibres qu'il va falloir prouver, mais très clairement, moi j'ai l'impression que on ne pouvait pas trouver d'accord si ce n'était pas les libéraux qui avaient les finances, parce que c'était vraiment leur ligne absolue. Après, bon, à voir exactement. Vous savez, en plus, ce qui va être très intéressant, c'est que en Allemagne, comme dans beaucoup de pays, mais en Allemagne qui est un pays une démocratie parlementaire, c'est le Bundestag qui vote, qui décide, qui fait des lois et qui vote le budget, etc. Mais le ministère des Finances n'est pas obligé de réaliser ce que les parlementaires, sauf à faire une loi spécifique demandant un détail, un retour. Donc, il a vraiment la position absolument centrale.
Alors, il a la position centrale, et puis surtout, j'allais dire, il est là. La dernière fois, il avait claqué la porte au dernier moment, on lui en avait beaucoup voulu, donc j'imagine qu'on peut pas reclaquer la porte une deuxième fois. Moi, j'ai un peu une curiosité, est-ce qu'on peut la claquer pendant? Est-ce que ça s'est déjà vu, une coalition qui explose pendant? Parce qu'on se rend compte que ce qui nous avait rassemblé à ce moment-là ne tient plus la route en plein milieu d'une mandature.
C'est arrivé en 1982, lorsque on avait donc la coalition entre les sociaux-démocrates et les libéraux à l'époque déjà, et où il y a eu un éloignement, si l'on veut, idéologique, et les libéraux ont décidé de mettre en minorité le gouvernement. C'était Helmut Schmidt, et là il y a un dispositif qui entre en vigueur au Parlement, qui fait que le gouvernement qui est mis en minorité, c'est-à-dire qui n'a plus le soutien d'un nombre suffisant de députés, eh bien doit laisser la place à la nouvelle coalition qui de facto se met en place.
Oui. Des vice-chanceliers, il y a combien de vice-chanceliers?
Alors en général, il y en a un, et traditionnellement, c'est le ministre des Affaires étrangères.
D'accord, bah, j'allais vous poser la question.
Mais ça peut être un autre portefeuille, et donc là, ça va être intéressant. Est-ce que si c'est Annalena Baerbock aux Affaires étrangères, elle, la vice-chancelière, ce qui serait un peu un signal envoyé à l'égalité, enfin la parité, mais Lindner aimerait bien être vice-chancelier.
D'accord, ça va se jouer donc entre ces deux-là. Pour Olaf Scholz, qui arrive donc le 6 décembre, au moment de Saint-Nicolas, avec les clés. Le premier chantier, vous diriez quoi, l'ennemi de la croix? Est-ce que c'est le Covid, au fond?
Absolument.
Le premier chantier, remettre tout ça en place.
Absolument, c'est le Covid. Et d'ailleurs, la conférence de presse présentant le programme de coalition a commencé par un point sur le Covid et l'annonce de mesures beaucoup plus fermes. En particulier, alors il n'y aura pas, a priori pour le moment, d'obligation vaccinale en Allemagne, parce que c'est vraiment un blocage. Pour autant, l'obligation vaccinale pour certaines professions, pour les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, pour et vraisemblablement dans le système de santé, oui. Et puis l'idée qui nous est quand même connue en France de beaucoup plus contrôler.
Parce qu'il y a
en Allemagne un pass sanitaire, de facto il y a un pass sanitaire, mais comme il est rarement contrôlé, il ne fonctionne pas. Et donc là, je pense que c'est vraiment leur premier chantier, y compris l'annonce d'aide financière au personnel de santé qui est particulièrement mise à l'épreuve actuellement.
Hélène Mière de la Croix, merci beaucoup. Passionnant comme d'habitude, vous reviendrez quand vous voudrez. Merci beaucoup, peut-être le 6 décembre pour la Saint-Nicolas.
Très bien.
Merci, à très bientôt.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde à Cuba, qui vit le 5e anniversaire de la mort de Castro, entre le ras-le-bol d'une économie en déconfiture, une envie de changement et la nostalgie castriste aussi. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénine.
On ira au Sénégal où le débat sur le viol secoue à nouveau le pays suite à une affaire au sein du comité des Miss.
Le cinéma en VO comme chaque mercredi. Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir, ce soir c'est un documentaire musique. Sortez les vestes à franges, on file à Memphis.
Moi j'en ai encore une. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Bah, vous l'avez annoncé il y a 5 minutes, on va voir si l'axe Paris-Rome avec ce traité du Quirinal en passe d'être signé peut être l'axe majeur des prochains mois.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec Damon Albarn, Royal Morning Blue. C'est le chanteur de Blur, figurez-vous. Allez, à tout de suite. Le bruit du monde ce soir est à Cuba, qui vit peut-être un tournant dans son histoire de révolution en même temps qu'un anniversaire. 5 ans ont passé depuis le décès de Fidel Castro. Depuis, Cuba a beau vivre dans la continuité de ses politiques, le pays change, les aspirations des Cubains aussi. Et sachant que la crise économique dure encore et toujours, que reste-t-il de cette révolution socialiste de Fidel Castro? Nous partons quelque part entre contestation et nostalgie. Et le reste, c'est Domiti Piron qui raconte.
Manifestations interdites, opposition étouffée et rues militarisées. La Havane vit des heures sombres et tendues et la crise économique, l'inflation, les pénuries et l'épidémie de Covid-19 ne viennent que noircir encore plus ce tabou. Rien ne va plus et pourtant ça dure et rien ne change. Le jeune Lázaro, démuni, désespéré et qui ne rêve que d'une chose, quitter Cuba, a sa propre explication à la situation.
Je n'ai pas le courage de sortir dans la rue et crier « Abat la dictature, ça suffit !» Et ça me rend complice de tout ce système. On sait tous très bien que ce système ne fonctionne pas, mais c'est nous qui le maintenons, nous sommes coupables.
Un sentiment d'impuissance et une paralysie engendrée par la peur. Mais Lázaro veut du changement pour Cuba et aimerait que son pays tourne définitivement la page de l'ère Castro.
Cuba est gouverné par un type qui est mort. Donc tu te rends bien compte qu'il n'y a pas moyen d'être sauvé. Il faut en finir avec tout ça. Il n'y aura pas de transition, parce que le type qui gouvernait et qui est mort continue de diriger le pays. Ce gars-là qui est président actuellement, c'est une marionnette. Et ils vont continuer de gouverner au nom de ce même Dieu. Ça va continuer, et ce n'est pas une continuité désirable.
Dans un quartier ouvrier de l'est de la Havane, l'ancienne médecin passée au secteur privé, Maritza Cabrera, est de ceux qui ont pu profiter des glorieuses heures de la révolution, contrairement à Lázaro. Elle estime qu'aujourd'hui, les Cubains ont changé, leur façon de penser a évolué, mais pas les politiques.
Les gens avant soutenaient Fidel en toutes circonstances. Ensuite, ça a été un long processus. Raoul a pris le pouvoir, Fidel est décédé. Aujourd'hui, Díaz-Canel est président, mais il n'a rien à voir avec ses deux prédécesseurs. Et il n'a pas du tout le soutien et l'appui populaire. Les Cubains aujourd'hui, nous vivons très très mal, ça n'est pas juste. Il y a tellement de misère, il faudrait que cela change. Il est évident que ce système actuel ne répond plus aux nécessités de la population. La révolution a perdu de son prestige et de sa force.
5 ans après la mort de Fidel Castro et alors que Raúl Castro vient de quitter la présidence du Parti communiste, le gouvernement actuel tente des réformes, annonce des changements et des ouvertures économiques. Mais les résultats tardent à se faire ressentir et surtout une question inquiète les Cubains. Cette révolution socialiste nous protégera-t-elle encore? L'économiste Ricardo Torres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Même s'il y a une ouverture du secteur privé, l'entreprise d'État restera l'acteur dominant de l'économie, donc on aura là la marque du socialisme. Une autre composante serait le maintien de l'accès aux services publics de base, comme la santé et l'éducation, ainsi que l'intention d'agir sur la redistribution pour tenter de combler les brèches qui existent, et notamment les inégalités. Parce que dans le système tel qu'il est, il va y avoir et il y a déjà plus d'inégalités et ces transformations économiques ne vont rien y changer, peut-être même les empirer.
Actuellement, les systèmes de santé et d'éducation sont moribonds et manquent d'investissement. Quant aux politiques de redistribution alimentaire, elles sont coûteuses et ne suffisent pas à une population qui peine toujours plus à se nourrir. Mais si Cuba et les aspirations des Cubains changent, il y a encore une constante, l'embargo américain. Le mal absolu qui justifie tout pour le gouvernement. Pour le député communiste Israël Granien, il n'y a rien à changer à la révolution telle qu'elle est aujourd'hui. Le mal est ailleurs. Cette nouvelle génération au pouvoir prône la continuité des politiques du passé en répétant sans cesse les mêmes éléments de langage.
Je crois que... que les idées de Fidel et de Raoul sont plus prisantes que jamais. Nous sommes un peuple de révolution. Un peuple enthousiaste. un peuple fait d'hommes d'idées et un peuple qui, face aux difficultés, sait se redresser. Et en ce moment, l'unité est plus présente que jamais. Oui, il y a des éléments contre-révolutionnaires, mais ce ne sont que des mercenaires payés par l'impérialisme et ils ne sont pas plus que deux ou trois.
Un discours de nostalgie qui laisse entrevoir tout de même chez les révolutionnaires cubains la nécessité de trouver un guide, une nouvelle boussole.
Domiti Piron pour le reportage, merci beaucoup. Domiti, à très vite. Le bruit du monde de la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Sébastien, nous sommes dans les rues de Dakar, au Sénégal, le pays secoué depuis plusieurs jours par une polémique autour de l'apologie du viol.
C'est une phrase en wolof lâchée au cours d'une conférence de presse qui a mis le feu aux réseaux sociaux il y a près d'une semaine. « Si on te viole, c'est que tu l'as bien cherché. » Celle qui parle avec autant de brutalité, c'est la présidente du comité Miss Sénégal, Amina Badiane. C'est la réponse qu'elle a choisi de faire après les déclarations il y a quelques jours plus tôt de la lauréate du concours 2020. Fatima Dionne a révélé être tombée enceinte après avoir été victime d'un viol quand elle était reine de beauté. Lors d'un voyage organisé par le comité, des accusations balayées donc d'un revers de main par la présidente de Miss Sénégal, qui se voit aujourd'hui accusée d'apologie de viol. Elle a eu beau s'excuser, le scandale ne cesse de prendre de l'ampleur. D'autres Miss ont raconté les comportements malsains de certains membres de l'association. Une pétition demandant la dissolution du comité a recueilli plus de 60 000 signatures. L'un des sponsors de Miss Sénégal a rompu son contrat et le débat flambe dans le pays, notamment autour de la loi votée l'an dernier au Sénégal et qui fait du viol un crime, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Une loi qui toutefois peine à changer les choses sur le terrain, comme le dit cette journaliste militante féministe Jali Badiane.
Ça n'a pas changé grand-chose. Nous assistons toujours à une omerta sur les dénonciations. C'est encore très difficile de libérer la parole des victimes, même si on a connu quand même des avancées, surtout grâce à l'avènement des réseaux sociaux qui offrent une plateforme libre pour que les victimes puissent en parler.
Voilà, à ce stade, la présidente de Miss Sénégal est toujours en poste. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte.
Direction l'un des plus grands aéroports d'Europe, aux Pays-Bas, qui entend chasser les oies sauvages avec des cochons.
Oui, drôle l'histoire d'animaux en effet. L'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam, un aéroport envahi ces dernières décennies par des oiseaux migrateurs. Ils adorent venir s'y poser car on y cultive dans les terres aux alentours, les polders, de la betterave. Et il fallait le savoir, les oies aiment la betterave. Mais au-delà de ces histoires de légumes, le vrai problème, c'est que les oiseaux perturbent, voire menacent la sécurité de l'aéroport. Les oiseaux, on le sait, sont les pires ennemis des réacteurs de Boeing ou d'Airbus. This is the captain. C'est la bande-annonce du film Sully que l'on entend derrière nous, directement inspiré de cet amérissage spectaculaire d'un A320 sur l'Hudson River à New York le 15 janvier 2009. Ce sont en effet des oiseaux que le pilote va percuter alors qu'il est en plein décollage. Et c'est bien cela que craint l'aéroport de Schiphol qui a recensé en 2018 565 chocs avec des oiseaux. Alors pour éviter aux avions d'avoir à se poser en catastrophe sur la mer du Nord, les responsables de l'aéroport de Schiphol multiplient les initiatives. Ils ont déjà essayé les technologies à base de bruit ou de laser, mais là, ils viennent de lancer une expérimentation d'un mois et demi, tout à fait inédite, vous le disiez, un petit troupeau de cochons, 19 spécimens exactement, viennent d'investir les abords des pistes sur 2 hectares de terre afin de manger les restes, les résidus des récoltes de betteraves et donc de dissuader les oies de venir s'y restaurer. Les cochons ont l'air ravis, même le bruit infernal des avions n'a pas l'air de trop les perturber. L'expérience est menée très sérieusement en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. On attend avec impatience les résultats.
Allez, on termine avec la maison Dior qui suscite l'indignation en Chine.
À l'origine de ce scandale, une photo réalisée à la demande de la marque de luxe.
Wake up.
Alors, il ne s'agit pas là, comme on l'entend, d'une publicité pour un parfum, mais d'une œuvre artistique commandée par Dior à une célèbre photographe de mode d'origine chinoise. Elle s'appelle Shan Man. Elle a été exposée à Shanghai pendant quelques jours. Alors, qu'a donc-t-elle de si scandaleux, cette photo? C'est un portrait en gros plan d'une jeune femme chinoise avec une peau mate pleine de taches de rousseur et de petits yeux très fins. Très différente, c'est vrai, des canons de beauté valorisés en Chine, à savoir la peau blanche et les grands yeux. Les internautes chinois et les journaux officiels chinois y ont vu un cliché humiliant, salissant l'image de la femme chinoise, une caricature totalement stéréotypée, inspirée d'une vision purement occidentale. La photographe s'est excusée platement. Je me blâme, a-t-elle dit, pour mon immaturité, mon ignorance. Dior, de son côté, a retiré la photo. Il faut dire que Dior, effectivement, est la marque de luxe préférée des les Chinois, il ne faudrait pas tuer la poule aux œufs d'or.
Comme vous dites, merci beaucoup. Sébastien Legénie, vous partez sur l'un de mes morceaux favoris de tous les temps. Bah alors, le Summertime de Janis Joplin. Hein, d'un jour dans le monde. Allez, bon, bah partez du coup. C'est ça qui est bien, le Summertime de Janis Joplin sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma et c'est Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
One, two, one, two, and...
It's a long walk to DC, but I've got my walking shoes.
Dans le cinéma en VO aujourd'hui, Corinne, on revisite l'histoire noire américaine à travers les plus grands tubes de Soul, un documentaire baptisé Soul Kids qui nous emmène à Memphis, la ville d'Elvis Presley, où une école fondée sur l'héritage du label La Stax s'occupe de fournir aux jeunes de la ville une éducation musicale, une éducation citoyenne, loin de la violence, Corinne, loin de la drogue, loin des guerres de gang.
Exactement, la ville berceau du king, du blues, du rock et de la soul est aussi l'une des plus dangereuses des États-Unis, figurez-vous, avec un taux de criminalité de plus de qui depuis 15 ans explose, record de violence et d'homicides, 238 morts cette année pour une population d'à peu près 600 800 000. 232 l'an passé, des gongs à tous les coins de rue. C'est dire si cette école de la Stax dont il est question dans le documentaire, une école gratuite, ouverte à tous, représente une oasis dans un territoire où les chances de réaliser des études supérieures sont bien moins importantes que celles de vivre dans la précarité. L'entrée en matière est un peu sombre, mais le chemin parcouru par les élèves qui étudient là est absolument incroyable. Quand il les a rencontrés en 2018, Hugo Sobelman voulait faire un documentaire sur la musique. Au final, Soul Kids est un film quasiment politique, une photographie de cette jeunesse bien décidée à s'en sortir en dépit des obstacles.
C'est une ville qui est très très difficile. C'est des gens en voiture qui baissent la fenêtre et qui tirent. Donc tant qu'on n'assiste pas à ça, d'une certaine manière, on n'assiste pas à la violence. On la devine très fort. Mais en revanche, j'ai compris à travers les témoignages des enfants, à travers les témoignages des élèves, la précarité dans laquelle leur famille pouvait être et la difficulté d'être dans la rue à Memphis. C'est surtout ça l'enjeu, j'ai l'impression, qu'on comprend à travers cette école et pour les parents de ces enfants-là, c'est comment on fait à partir du moment où l'école s'arrête à 14h pour occuper nos enfants toute l'après-midi pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la rue, puisque les rues sont tellement vides qu'on tombe très très vite dans des fréquentations qui peuvent être dramatiques pour des jeunes ados. Puis ensuite, c'est vrai que l'autre particularité de la Stax, au-delà d'avoir une approche liée aux morceaux des années 60, c'est évidemment de lier cette musique à tous ces combats sociaux, pas seulement à travers les chansons, mais donc ça donne tout un tas de débats à l'intérieur de l'école et une ouverture d'esprit qui se forme et ce qu'ils appellent eux ce safe space, c'est-à-dire cet endroit où on peut parler de tout, où on peut s'exprimer, où on se sent protégé. Ils ont un éveil par rapport à ces questions raciales, à ces questions sociales qui traversent toutes les salles de classe de l'école et qui permet de s'élever.
Et alors Corinne, le bilan de la Stax Academy est assez impressionnant. Depuis à peu près 20 ans qu'elle existe, l'école a formé des milliers de jeunes à toutes sortes de métiers de la musique. Certains ont même pu profiter de tribunes assez étonnantes.
Oui, comme chanter par exemple pour la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden. Les chœurs que vous entendez, bien, ce sont les élèves de l'école qui sont aux côtés de Justin Timberlake. La plupart des anciens aujourd'hui sont devenus enseignants, chanteurs, musiciens ou exercent de haut niveau dans l'industrie de la musique. À l'école, on leur apprend à écrire, à chanter en tenant compte de l'héritage culturel, de la lutte pour les droits civiques des Noirs. Mais ils peuvent aussi suivre des cours de business, de management pour apprendre à négocier par exemple leur futur contrat ou à défendre leur carrière. On a pu rencontrer deux élèves qui figurent dans ce documentaire. Leur situation a évidemment pas mal évolué depuis. Jonathan Lee, 22 ans, bientôt diplômé de l'université de musique de Memphis. Il devrait intégrer à la rentrée une grande école de comédie musicale à Los Angeles. Et Catherine Illy, 21 ans, qui a choisi elle de devenir prof à la Stax Academy.
Moi, j'ai grandi dans la partie nord de Memphis. Pas l'idéal si tu es jeune et noir. Tout le monde essaie de t'attirer. Viens avec nous, tu vas voir, c'est super. Et ce que la Stax m'a apporté, eh bien, c'est de suivre ma voie, devenir celui que je rêvais d'être. Évidemment, ça passe aussi par de bons résultats à l'école. Si tu récoltes que des D ou des F sur ton carnet de notes, tu peux oublier les répétitions. Moi, ce que je veux, c'est briller sur scène. Tout ça m'a permis de m'en donner les moyens.
La Stax, en fait, c'est comme une frontière à l'intérieur de la ville, un lieu sanctuarisé dans lequel nous pouvons être nous-mêmes. C'est ce qui m'a décidé à en faire mon métier. Je veux pouvoir rendre aux autres tout ce que l'école m'a apporté. Je me sens chez moi.
Le documentaire s'appelle Soul Kids, je le recommande.
Voilà, sur les écrans ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron se rend demain en Croatie, surtout ensuite en Italie. À partir de demain soir, il doit y signer un traité d'amitié franco-italien. Dit ça comme ça, ça paraît abstrait, technique, pas très intéressant, mais vous voulez attirer notre attention sur cet accord appelé traité du Quirinal. Vous trouvez ça sexy, c'est votre monde d'après.
Ouais, avouez à Fabienne, quand je vous ai dit tout à l'heure mon envie de parler du traité du Quirinal, bon, vous avez un peu pincé le nez et je vous imagine...
L'autre idée était pire.
Je ne dirai pas laquelle c'est. Je vous imagine, vous qui nous écoutez, faire un peu la même chose. C'est quoi ce machin? C'est institutionnel et rasoir, non? Même avec cette vague nostalgie latine derrière ce nom Quirinal, qui est l'une des sept collines de Rome, bien sûr, et aussi le nom du palais présidentiel italien. Eh bien, détrompez-vous, c'est beaucoup plus sexy que vous ne croyez. D'abord, ce type de traité est rarissime. Il n'y a qu'un seul précédent, c'est le, ou plutôt les traités franco-allemands, le traité historique de l'Élysée, de Gaulle-Adenauer en 1963, renouvelé par le récent traité d'Aix-la-Chapelle, Macron-Merkel. Le Quirinal est donc seulement le second accord de ce genre signé par la France. Il est le fruit de 4 années de travail et il vient sceller la place de l'Italie comme notre plus proche partenaire avec l'Allemagne. Et puis, cet accord vient conclure un extraordinaire retournement de situation parce qu'il y a 2 ans et demi, rappelez-vous, début 2019, c'est hier, Paris et Rome étaient à couteau tiré. Les noms d'oiseaux volaient, contentieux sur les migrants, les gilets jaunes, la Libye, à tel point que la France avait rappelé à Paris son ambassadeur à Rome, Christian Masset, qui prononçait alors le mot « sidération ». 2 ans plus tard, le même Christian Masset, toujours en poste, nous parlait il y a quelques jours dans son bureau d'une lune de miel entre les deux capitales, d'une relation excellente entre Emmanuel Macron et le président du Conseil italien Mario Draghi. Tout s'est inversé très vite.
Et ça, c'est pour la forme. Donc Jean-Marc, sur le fond, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce traité ?
Alors, on connaîtra les détails qu'après-demain, mais il devrait y avoir du concret, avant tout sur le cœur de la relation franco-italienne, l'économie, le commerce. L'Italie, en fait, plus que l'Allemagne, est un partenaire qui nous est comparable par la taille, avec une population, un produit intérieur brut légèrement inférieur, mais finalement assez proche. Les deux pays ont beaucoup en commun. Il est d'ailleurs temps que la France cesse de regarder Rome avec une pointe de condescendance. Les échanges commerciaux approchent les 100 milliards d'euros entre les deux pays. Ils ont des atouts similaires sur l'exportation, le tourisme, l'agriculture. La France est à la fois le 2e partenaire commercial de l'Italie et le 1er investisseur étranger sur le sol italien. Il y a des projets emblématiques comme le TGV Lyon-Turin qui, après moult péripéties, devrait voir le jour en 2029 et de multiples idées de partenariats industriels bilatéraux. Et puis le traité devrait également approfondir les échanges culturels et éducatifs, les doubles diplômes par exemple, c'est très concret, les coopérations sur la recherche ou le numérique, notamment sur l'intelligence artificielle.
Et alors est-ce qu'il va y avoir une application au niveau européen ?
En fait c'est ça le plus important. Ce traité franco-italien intervient dans un contexte européen bien particulier au moment où la France s'apprête dans un peu plus d'un mois à prendre la présidence tournante de l'Union européenne pour le premier semestre 2022 et au moment où, on le voit bien, l'Europe sort d'une zone de turbulence, pandémie, Brexit, élections allemandes. Côte à côte, la France et l'Italie, 2e et 3e économie européenne, pèsent lourd, une taille critique. Et les positions des deux gouvernements sont aujourd'hui très proches sur la plupart des dossiers européens. Paris va donc pouvoir bénéficier de l'appui de Rome sur plusieurs sujets. La volonté de pérenniser les plans de relance par endettement mutualisé, et l'Allemagne, avec son nouveau ministre des Finances, sans doute libéral, vous en parliez tout à l'heure, ne sera pas facile à convaincre. L'objectif affiché d'instaurer un salaire minimum partout dans l'Union, c'est l'un des grands objectifs de Paris, l'accélération du plan climat européen. Bon, l'axe Paris-Rome est donc déterminant pour les mois à venir, même si je vous rassure, tout n'est pas totalement rose non plus entre les deux capitales. Sur la défense, le rachat de l'italien Leonardo par le franco-allemand Nexter KMW s'annonce compliqué, et sur les migrants, les positions restent éloignées en l'absence d'accord européen sur la répartition des demandeurs d'asile. Mais bon, ce sujet-là des migrants dépasse de beaucoup le simple contentieux franco-italien. C'est de toute façon la patate chaude dont personne en Europe ne veut s'occuper malgré les drames en série, comme le dernier en date à Calais.
Dont on va parler évidemment dans un tout petit instant puisque c'est le journal d'Hélène Philly qui arrive juste avant le téléphone sonne dans un instant. Merci de passer la soirée avec nous.